c'est l'état d'urgence.
Résistance ! Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestations, hein.
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants.
C'est l'état d'urgence.
Et oui, ça dure, et c'est dur. 206e jour d'état d'urgence, invisible comme l'air qu'on respire. Prolongé jusqu'au 26 juillet, oui, 26 juillet, après le Tour de France. Alors, à qui ça sert encore? Eh bien, par exemple, annuler des kermesses à Calais, voilà. Mais sinon, aussi, au 13 mai, hein, c'est le dernier constat qu'on a, on comptait 3579 perquisitions qui ont donné 67 peines prononcées, dont seulement 6 pour terrorisme. Alors, 6 sur 3579, en pourcentage, ça donne quoi? Ça donne 2 pour 1000. Sur 1000 perquisitions, il y en a 2 qui ont donné quelque chose, des condamnations pour terrorisme. Voilà, sur les assignations à résidence et autres mesures sur l'ordre public par lettre de cachet, les rapporteurs parlementaires, vous savez, il y a une commission d'enquête qui s'occupe de surveiller l'état d'urgence pour la remettre dans le droit fil de l'état de droit, celui qui nous condamne en matière ordinaire. Donc cette commission estime que, ouvrez les guillemets, l'état d'urgence altère sensiblement le régime de la liberté de manifestation. Oui, bon. Allez, courage vers l'infini et au-delà, et surtout pour la coupe de l'UEFA qui commence vendredi prochain, il va falloir déployer des trésors d'imagination pour perturber, bloquer, arrêter, bloquer, perturber.
C'est encore un jeu concours dont vous choisissez le terme qui vous semble
voilà.
Le plus
approprié. Vous pouvez cocher les trois aussi.
Chacun avec ses moyens, chacun avec ses méthodes. L'essentiel, c'est que ça soit une coupe de l'UEFA dont on se rappelle. Et vu que c'est sûr que la France ne gagnera pas, le meilleur moyen, c'est d'arriver à l'annuler pour que tout le monde s'en rappelle.
Il y a un appel à perturber 7 euros qui débute vendredi 10 juin, comme chacun, chacune sait, vendredi 10 juin, le match France-Roumanie. Vous n'y serez peut-être pas, peut-être n'aurez-vous pas souhaité rejoindre non plus les fanzones mises gracieusement à notre disposition par les autorités. Peut-être préférerez-vous aller soutenir la CNT qui organise un concert de soutien au local de La Dernière Chance. Vous y retrouverez Tue la Mort, Street Punk parisien, ou Tragedy Again, un tribut punk rock 1980 de Toulouse. Également Madame la Marquise, un autre groupe toulousain de punk rock, une participation libre mais nécessaire à organisée par la Confédération Nationale du Travail 31. C'est une première alternative à l'Euro UEFA et son ouverture. Deuxième alternative, vous pourrez également rejoindre les amis du syndicat des travailleurs heureuses du sexe qui organise des rencontres internationales les 9, 10 et 11 juin. La plupart de ces rencontres sont réservées aux travailleurs et travailleuses du sexe, mais ils ont eu la très bonne idée de confier également le reste du monde à leur séance plénière. Ça sera jeudi matin et samedi et vendredi après-midi. Également, vous êtes convié à une pièce de théâtre qui aura lieu jeudi soir et à un film tout à fait intéressant, Payer sa vie en présence du réalisateur. Ça sera le vendredi. Et vous êtes plus que convié samedi pour la grande manifestation Occupation de l'espace public avec les travailleurs et travailleuses du sexe. Ça sera à Toulouse le samedi. Si vous n'êtes convaincu ni par l'un
Place
ni
Belfort.
Par l'autre. Place Belfort, oui, précisons-le. Merci. Une dernière possibilité, et ce qui nous permet de glisser tranquillement vers le sommaire de cette émission, samedi 11 juin, donc c'est le samedi qui vient, les Trois Passants, un collectif franco-mexicain, organise une journée de solidarité avec des prisonniers en lutte au Mexique. C'est toujours en prix libre. Dès 16h, exposition d'affiches. 17h, projection et échange, lecture de lettres de prisonniers. À 19h, un concert musical. un concert de son Yaroko. Alors vous entendrez tout ça plus en détail dans la musique et dans le propos, parce qu'on ces gens-là, le collectif Les Trois Pasans, a fabriqué un petit son qu'on diffusera en fin d'émission. Ça dure une vingtaine de minutes, ça sera à 13h30 sur cette antenne. Vous êtes à l'écoute du Front du Lundi, vous êtes bien sur Canal Sud, le 92.2.
C'est lundi.
C'est lundi, et donc et le sommaire de cette émission est évidemment, comme d'habitude, chargé, puisque on va écouter plus ou moins dans l'ordre. Il va falloir charger le témoignage de la mère d'un jeune interpellé mineur qui s'est fait attraper le 26 mai dernier à la manif contre la loi travail.
Vous entendez du bruit parce qu'il y a lycéens qui viennent d'occuper les locaux, mais exactement. Ils repartent, on leur a fait peur.
Donc, ouais, voilà. Ils ont vu qu'avec un micro de dispo, donc voilà. Du coup ils vont le tirer, voilà. ils vont jeter le micro
ils
en l'air.
Ils l'ont mal pris, ils sont partis vraiment. Il fallait pas laisser Nico les accueillir. On avait dit panico à l'accueil.
Ouais, mais on a un gentil animateur. Normalement, il est gentil. Mais
visiblement, il a correspondance. Non, mais il a été pion, tu sais. Je pense que c'est le seul de nous trois qui a été pion.
C'est vrai. Mais je pense qu'il les briefe pour leur dire voilà, tu dis ça, tu dis pas ça, ouais. Etc. Puisqu'en fait, évidemment, on est plein de mauvaise foi et donc on prépare tout à l'avance, et y compris les réponses de nos interlocuteurs. Sinon, il n'y a aucun intérêt, on ne les inviterait pas. Ensuite, on va parler également blocage, café, croissant du matin, avec un petit somme réalisée par notre ami Juge, blocage de Castelnau,
Juge. Tu m'as fait peur, c'est parce que et notre ami Juge,
et on finira avec Nico et le son qu'il a pris par rapport à cette journée de solidarité avec les prisonniers en lutte au Mexique. Bienvenue.
Bravo. Voilà, ça y est, ils sont revenus. Je ne sais pas ce que Nico leur a dit dans les coulisses, mais il et elle sont revenus. Viens t'asseoir à côté de moi.
Nico.
Tu seras bien.
Et il manque une chaise, c'est dommage. Petit, c'est dommage, Nico, que tu n'aies pas assuré l'intendance à ce point-là, c'est-à-dire d'amener assez de chaises.
Mais je t'ai fait du risotto.
D'accord. Oui, on va écouter dans 5 minutes le témoignage d'une mère. Mère de... Ouais, putain, l'intendance suit, quoi. Putain, on est con, on est fou. Hein. On va écouter donc le témoignage de la mère d'un jeune lycéen qui s'est fait attraper le 26 mai dernier à la manif contre la loi travail. Cette manif du 26 mai, il y a eu 7 arrestations, un mineur qui s'est fait arrêter. Parmi les 7, il y en a déjà 2 qui sont passés devant la justice. Un étudiant de 24 ans qui avait lancé un bidon contre un CRS. Le bidon s'est arrêté avant le CRS. Le bidon était vide. N'empêche qu'il a pris 105 heures de travail d'intérêt général, 4 mois de sursis et 500 euros de dommages et intérêts, parce que le CRS a eu peur, et que la peur, ça se chiffre, et que donc il a pris quand même... La peur, ça paye. Il y avait également un autre garçon, 40 ans. Alors le tribunal l'a fait passer pour un alcoolique notoire, SDF. Hein.
Ouais, c'était avec lui la veille.
On était ensemble, avec toi aussi, Nico. Et du coup, il a été, lui, condamné pour dégradation. Alors lui aussi a jeté non pas un bidon, mais une canette vide. Il a mal visé. La canette s'est arrêtée avant de tomber sur le CRS. Il a pris quand même un an de prison, 6 mois ferme et 6 mois avec sursis, parce qu'il avait participé auparavant à une manif anti-Sivens, en fait, il avait manifesté contre la mort de Rémi Fraisse. Et donc ça a joué également. Quoi.
Le conseil du Front de l'Ali, ne soyez pas innocent, parce que de toute façon vous mangez la même chose, donc visez carrément la tête. Quoi.
Voilà, et buvez vrai, après vrai. Avoir lancé plutôt qu'avant, parce que du coup, voilà, courir un peu avec. On voit que ça ralentit.
Évidemment, les propos n'engagent que leur auteur. Ouais, ceci étant, ben voilà, donc un beau programme, vous avez fini le menu ou pas?
Le plat du jour.
Alors là, voilà, donc on a 4 invités et eux, 3 qui parlent, 1 qui parle pas. Peut-être on commence par celle qui parle pas, bonjour. Non, je plaisante.
T'es sympa, toi.
Ouais, t'es vraiment sympa pour mettre tout le monde.
Que normalement, au bout d'un moment, il faut qu'ils prennent la parole. Bonjour.
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 Donc vous êtes lycéen, lycéenne,
c'est ça,
investi
c'est
ça. Contre la loi travail.
Oui. Exactement.
Voilà, depuis le début.
Oui.
C'est bien.
Ça veut dire que depuis 2 mois, vous faites mobilisation, manifestation, participez aussi aux actions de blocage un peu à droite à gauche, au McDo par exemple.
Ouais. Ouais.
Vous y étiez.
Oui. Ouais.
C'était sympa. Vous avez le droit de dire plus qu'une syllabe.
Non, on y était.
C'était sympa.
Alors, vous pouvez essayer les casques, comme ça vous verrez un peu si vous êtes près du micro. Peut-être on peut.
Voilà, on peut regarder notre technicien vedette aussi. Ouais, voilà, je crois que notre technicien vedette nous dit que plus vous êtes près du micro, mieux c'est.
Ouais. Voilà. Donc vous étiez à cette action de blocage au McDo, c'était quoi? C'était le 17 mai, quelque chose comme ça, non? Enfin, c'était mi-mai. Et comment ça s'est passé, quoi? C'était bon enfant au départ, visiblement, jusqu'au temps qu'il y ait des casseurs de fête qui arrivent un petit peu, qui pénètrent dans le lieu, c'est-à-dire les CRS sont oui. rentrés à l'intérieur à un moment donné. Et
de
vous
force.
Y... Ouais, de force.
Comment vous avez vécu ce moment-là?
Au début, ça fait un peu peur. Maintenant, avec toutes les actions, on commence un peu à s'habituer, mais c'est vrai que au début, quand ils sont rentrés, il y a eu beaucoup de violence. On avait déjà fait des actions auparavant d'occupation, un peu comme ça. Mais c'était très bien passé, les CRS avaient été plutôt bien même. Et là, c'était totalement autre chose. Et ils ont cassé les vitres, il y a eu des violences, voilà, ils ont blessé des gens. Donc, c'était pas...
Vous faites partie des gens qui se sont pris des coups de matraque, peut-être, hein, ou...
Moi, j'étais pas dedans, non, celle-là, non. J'étais pas...
D'accord,
pas
dans celle-là.
Non, d'accord. Peut-être pas sur cette action, mais...
Pas ouais. sur celle-là, mais sur d'autres,
voilà.
Oui.
Sur celle-là, nous, on était plutôt... Enfin, moi, j'étais pas directement dans le McDo au moment où ils sont intervenus. Mais oui, c'est vrai qu'après, à l'extérieur, ils nous ont chargés, mais ce jour-là, on n'a pas reçu de coups. Enfin, moi, en tout cas, beaucoup ont reçu. Il y a eu quelques blessés aussi, mais pas ce jour-là.
Il y a eu un blessé. Hein.
Y a eu un blessé, effectivement. Il y a un garçon, on va l'appeler Pierre, qui s'est fait taper dessus, taper sur la tête, taper sur les lombaires. Il est sorti mal en point, quoi, quand même. À tel point que ça, il est allé aux urgences. Sa mère a porté plainte. Évidemment, elle l'a fait. Elle n'est pas allée chez les flics pour porter plainte contre les flics. Hein. Elle l'a fait via un avocat directement devant le procureur de la République. Donc, évidemment, pour le moment, aucune nouvelle. En revanche, ce jeune Pierre aussi, qui fait partie de votre coordination, s'est retrouvé donc à Manif, j'imagine, avec vous. Hein, vous devez le connaître.
Oui, oui,
le 26 mai. Ouais, donc, à un moment donné, il s'est éloigné un petit peu du cortège que vous étiez.
Ouais.
Mal lui en pris, puisqu'il s'est retrouvé un petit peu prise à partie entre des manifestants et des CRS, et CRS qui ont chargé. Il s'est fait donc ramasser par les flics, c'est-à-dire d'abord taper dessus et ensuite embarquer. Et donc, on commence l'histoire, peut-être on commence
à écouter. Là, il disparaît ouais. Et donc quelques semaines plus tard, vous discutez avec la mère et elle nous raconte.
Vous l'avez vu, l'arrestation?
Non, j'ai pas vu l'arrestation. On n'a pas vu l'arrestation, mais on a eu des retours. Vu qu'on le connaît bien, il nous a plutôt tout raconté. C'est vrai que il nous a dit que c'était plutôt choquant quand même d'avoir vécu ça. Je pense qu'il reste encore un peu secoué de cette arrestation et de cette garde à vue, parce que le lendemain, on l'a rappelé au commissariat après avoir vu un médecin et il a fait 12 heures de garde à vue.
On va rentrer dans le détail donc, voilà. De ça.
Avec sa mère nous raconte tout ça, on va l'écouter ensemble, ça dure 10 minutes. Et c'est ça commence, comment elle n'apprend pas par la police et elle apprend justement par vous.
J'ai été avertie par les lycéens que mon fils a été embarqué. Jamais la police ne m'a prévenu. Donc mon fils a été embarqué. Il était avec la délégation lycéenne au départ. Et il a vu que ça pétait plus loin. Donc il a été voir. Et à ce moment-là, c'était le lieu où les gens caillassaient. Et ça a chargé au même moment. Il est parti en courant. Et au moment où il s'est retourné, il s'est pris un coup de matraque encore sur la tête. Et il a été embarqué. D'ailleurs, dans ce bus, enfin dans leur véhicule, il y avait aussi la jeune fille qui a été vue
tirée par les chevaux,
et qui s'est pris encore une grosse baffe dans le véhicule parce qu'elle refusait de donner son nom. Donc voilà, il a été embarqué. Moi, j'étais toujours pas au courant, donc j'ai été avertie par la délégation lycéenne. Et j'ai appelé, je connaissais un des pères d'une jeune fille qui faisait partie de la délégation lycéenne, qui était la CGT. Et il m'a rejoint, on s'est rejoint en commissariat. Et là, il a fait jouer un peu de son réseau. Il a appelé une personne qui travaillait au commissariat. Et parce que dans ses luttes, lui, il a fini par connaître des gens. Et là, elle a recherché partout mon fils. Ça a duré plus d'une demi-heure. Alors là, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment eu peur, quoi. mon fils, on ne savait pas où il était. Il était dans le commissariat, mais on ne savait pas. Et ils ont fini par le trouver, parce que c'était le seul mineur, mais ça a mis, je sais pas, trois quarts d'heure, cette histoire. Et voilà, donc ils ont averti les policiers que j'étais présente dans le commissariat. Ils m'ont appelée, je suis arrivée, et mon fils a craqué en disant que plus jamais il ferait de manif. Et là, il m'a dit ce qui s'était passé. Donc, il m'a fait toucher sa bosse sur la tête, qu'il l'avait tapé. Il l'avait menotté. Il avait des traces sur le visage quand ils l'ont plaqué au sol. Plein de traces. Et les menottes très, très serrées. Il m'a dit aussi qu'à un moment donné, il avait une capuche. Que quand il a voulu, ils lui ont mis la capuche sur le nez en lui bloquant la respiration. Que là, il a très angoissé. Il a demandé qu'on lui enlève la capuche du visage. Ils ne l'ont pas fait. Donc, il me demande de repartir comme ça. Et j'ai refusé. J'ai exigé que mon fils voie un médecin. Et là, ça a été la panique. J'ai bien vu dans le commissariat, ça paniquait de partout. Ils ont appelé le procureur. Ils ont appelé les chefs. Enfin, tout le monde. Donc, ils ont appelé un médecin qui a en premier lieu, je le cite, a refusé de venir. Parce que c'était pas grave et puis qu'il avait d'autres choses à faire et qu'il n'avait pas le temps. Donc, à un moment donné, du coup, j'ai proposé l'amener aux urgences. Donc, il a rappelé le procureur et qui a accepté. Et là, il commence à taper, à vouloir me faire signer que mon fils avait tapé donc la BAC. Et là, j'ai refusé. Le policier s'est levé en me disant, il s'est énervé tout seul. Bon, moi, ça ne m'impressionne pas, donc il s'est énervé. Ah, mais c'est comme ça, vous n'avez qu'à partir. Et puis, il s'est rassis. Je lui ai dit gentiment et fermement que ce n'était pas à lui de me dicter, c'était à moi de lui dicter ce que j'allais signer. Et moi, j'allais signer que mon fils avait pris des coups et que je le prenais, et je ne signerai rien d'autre. Donc, il a rempli l'acte. Il a eu du mal à me le donner. Je lui ai dit que je souhaitais que j'avais le droit à un double. Il me dit oui, mais je vais le faire tamponner. Donc, on est repassé à l'accueil du grand commissariat. Et, sauf qu'il y avait eu plein de monde et il pensait que dans l'euphorie, j'allais partir comme ça avec mon fils sans le papier. Il le laisse au fond de l'accueil et je lui dis, je le rappelle, j'ai dit ce papier-là et ce papier-là, il est pour moi, la convocation et l'autre. Vous devez me la donner. Donc, il a été la rechercher, il me l'a donné. C'était pas simple, quoi, pour l'avoir. Et je suis partie avec les documents et mon fils. On a été à Purpan, et là, on a attendu. On a pris en photo aussi les poignets. On nous a dit qu'il fallait prendre en photo. Et puis, il a constaté la bosse, il a constaté, voilà. Et puis, on a eu le fameux certificat. Et voilà, donc on est rentré à la maison à 2h du matin. Le lendemain, 9h, à 8h15, j'ai rendez-vous avec mon avocate et mon fils pour nous dire comment ça allait se passer, parce que nous, on n'a jamais vécu ça. Donc, elle lui dit qu'il a le droit de rien dire. Vu comment il a été pendant 3 heures face à, en fait, j'allais dire, cet accueil musclé, il ne se sentait pas ne rien dire, quoi. Et elle lui dit que s'il y a des questions trop, trop, trop dérangeantes, il peut aussi ne pas répondre à celle-là. Alors, il lui dit qu'il préfère cette version-là que ne pas répondre du tout, c'était pas possible. Et en fait, il a répondu à toutes les questions. Du coup, à 9h, en fait, il y avait des personnes de la CGT qui étaient là, la délégation lycéenne qui était là. Donc, il y avait quand même... On a eu de la chance que nous, qu'on n'était pas isolés. Et on rentre au commissariat, on a attendu un quart d'heure. Et là, le policier m'annonce que je ne peux pas y assister. Alors là, j'ai craqué, que mon fils est en garde à vue, placé en garde à vue. Dans toute la journée, ça a été très dur. Hein. Pour moi, ça a été très dur. D'ailleurs, je remercie la CGT. Hein. Franchement, ils m'ont beaucoup soutenue. Voilà, au niveau des droits, ils sont restés avec moi tout le temps. Moi, j'étais un peu perdue. Hein. Là, j'étais un peu déconfite. Et en fait, à 5 heures, normalement, il devait y avoir tout un rassemblement devant le commissariat. Et je pense que ça a amené à ce qu'à 3h30, on m'appelle. Où il y a eu une confrontation pendant cette garde à vue.
D'accord, avec l'avocate qui était à ses côtés.
Présente.
D'accord. Ouais. Confrontation avec les flics qui l'accusaient d'avoir jeté des pierres.
Voilà. Et
avec quoi. Un ou avec les quatre? Je crois qu'ils étaient quatre, non?
Ils ont été quatre à dénoncer mon fils, et mon fils n'en a vu qu'un.
D'accord, quatre policiers de la BAC.
Oui, et mon fils n'en a vu qu'un. La confrontation s'est faite avec un.
D'accord.
Ils ont, quatre ont signé. Moi, j'ai été reçue par deux policiers qui étaient très bien. Par contre, voilà les deux choses positives qui étaient très bien. Mais je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit qu'ils le savaient, que mon fils est innocent. Et ce qui n'a pas été... Ils m'ont rien dit, ils ont été neutres. Mais la façon dont on m'a accueillie, je sais qu'ils le savent, que mon fils est innocent.
Et donc là, on est vendredi, il est 15h30, il sort, vous sortez, la garde à vue est levée, et on pourrait penser que ça en reste là, et que ça ne s'arrête pas là du tout.
Pas du tout.
En fait, vous recevez ensuite par courrier ou vous repartez avec les papiers?
Ils me le disent, eux, ces policiers. Alors là, c'est vrai que...
Que disent-ils?
Ah, ils me disent que mon fils est à charge, il doit aller passer au tribunal des enfants, le 9 août, au pénal. C'est pas rien, quoi. Lui qui a envie de faire une carrière d'infirmier, et que le 16 juin, je dois démontrer que j'éduque mieux mes enfants. Alors là, j'ai trouvé ça surréaliste. Il faut que je prouve que mon fils n'est pas quelqu'un de violent, dépravé. Puis je vois bien une mère avec ses trois enfants, voilà, dépassée par les événements. Je vois bien ce qu'est les raccourcis qui vont se mettre en place derrière. Et là, moi, je cours partout en ce moment pour démontrer. J'ai demandé au directeur du collège là combien j'ai une attestation, combien j'étais derrière mes enfants. Là, je suis en train de j'ai demandé. Là, il faut que je demande à la prof principale de mon fils, demander combien mon fils est non violent. Voilà, je suis en train de voilà. C'est une mascarade. Une mascarade. Devant des policiers, c'est ce que j'ai dit, devant les policiers qui savaient que mon fils était innocent. Et ça, je trouve ça incroyable que je dois prouver que j'élève bien mes enfants. Je trouve ça décalé, quoi. Franchement décalé. Et même s'il avait tort, dans la façon dont on traite les gens. En face, il y a des professionnels. Ils sont professionnels, ils doivent avoir un certain... garder leur sang-froid. On ne prend pas comme cette personne a été prise par les cheveux, là. Ce n'est pas possible, même si elle a tort. Et même, quand bien même elle aurait tort, on n'est pas trois sur une personne. C'est des gens qui pratiquent les arts martiaux. Donc, ils doivent avoir une retenue. Moi, je suis désolée, dans mon travail, quand on insulte, quand on pète les plombs en face, je garde mon sang-froid. Et c'est ce qui fait que quelqu'un est professionnel et quelqu'un ne l'est pas. Et si les gens sont... On dit que la police est fatiguée, eh bien, qu'ils s'arrêtent. Quand les gens sont fatigués, on s'arrête, on se met en maladie. Mais on ne travaille pas avec lui. On charge pas l'humain comme ça.
Voilà, quand les policiers s'arrêtent, ils auraient qu'à s'arrêter, mais il y a des gens qui sont pas fatigués, qui continuent, qui sont en mouvement depuis pas mal de temps, et on a la chance de les avoir dans le studio. Vous avez entendu le son de leur voix avant ce petit reportage, donc on vous redit bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous voir. Vous découvrez là ce qu'on vient d'entendre, le témoignage de la mère de Pierre. C'est une manifestation à laquelle vous étiez, je sais pas, quelques retours, on discutait pendant le montage, peut-être pour commencer par si ça vous fait peur ça, cette répression qui touche des gens que vous connaissez, des manifestations auxquelles vous participez, c'est quoi un petit peu votre rapport est-ce que c'est stimulant, est-ce que ça tétanise?
Ça tétanise pas, mais c'est sûr que ça fait prendre des précautions supplémentaires quand on sait que y a des... c'est pas pareil de savoir que quelqu'un s'est fait arrêter donc on connaît pas le nom, et un proche qui s'est fait toucher, qui a passé 12 ans de garde à vue, et quand on en a le retour après, évidemment que il y a plus la même vision des choses, quoi. Ça va pas dire que ça va s'arrêter là, mais c'est sûr qu'il y a des précautions qui sont prises en plus pour essayer que ça se reproduise pas, quoi, parce que c'est...
Et c'est quel genre de précaution, là, si on entre un peu dans le vif du sujet, comment on fait quand on a, je sais pas, vous êtes dans un bahut, évidemment, on va pas donner le nom du bahut, mais voilà, vous êtes scolarisé, vous avez d'un côté les flics, de l'autre côté l'administration, c'est quoi le genre de précaution? À quoi est-ce qu'on fait attention?
On a, par exemple, en manifestation ou en action sur les lycées, etc., la précaution numéro 1, déjà, c'est très important, c'est de jamais rester seul, en fait. Faut toujours, nous on estime qu'il faut toujours rester en groupe parce que si on est seul, en fait, on se retrouve. Il y a des moments où on peut se retrouver sans témoin ou sans quelque chose comme ça, et où on peut se faire embarquer sur des choses comme ça. Après, au niveau des lycées, quand on fait des blocus ou des actions un peu comme ça pour que les lycéens puissent aller en manifestation, généralement, ça se passe plutôt bien. Après, c'est plus au niveau de l'administration que c'est compliqué. On a des punitions et on est fiché, hein, en quelque sorte. On nous l'a dit clairement. Moi, j'ai des professeurs qui m'ont dit clairement, vous êtes fiché par l'administration. On a eu aussi dans un lycée où il y a eu une intervention policière qui était un petit peu musclée. C'était pas top non plus sur des lycéens, quoi. Donc après, voilà, mais il n'y a pas forcément...
Mais tu parles, quand tu dis que vous avez quelques soucis avec l'administration dans vos établissements respectifs, c'est des journées d'exclusion, c'est des heures de colle, c'est des convocations chez le proviseur, c'est des profs également qui vous mettent la pression en vous disant de ne pas participer à telle manif, c'est ça, quoi, quand même. C'est, et donc, en plus, quand vous allez en manif, vous avez la pression, un peu la terreur là, orchestrée par les flics en face.
Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, des jours d'exclusion, non. Enfin, alors, sur un blocus dans un lycée, on a peut-être eu un cas comme ça. D'ailleurs, on s'est fait recevoir par le rectorat, une délégation de lycéens, mercredi dernier, pour pouvoir discuter de ça. Après, généralement, c'est plus des heures de colle, des convocations.
Des réflexions des profs,
voilà,
aussi.
Voilà, beaucoup de réflexions de profs, énormément. En cours, tout le temps, tous les jours.
Quel jour ?
Faudrait penser à faire autre chose que des blocus.
Genre, vous êtes un gauchiste.
Déjà, ouais.
D'accord.
Vous êtes un révolutionnaire, vous savez même pas de quoi vous parlez.
Après, c'est sûr, c'est pas cautionné par l'administration, quoi. Ils peuvent pas comprendre que quand t'es en manifestation, t'es en manifestation, y a rien qui peut me justifier à cause de ça. Donc voilà, quoi.
Oui, après, c'est un truc dont on parlait tout à l'heure, mais je sais que quelques années en arrière.
Tous les profs ne sont pas de gauche.
Non, c'est justement. Ils ont voté pour ce gouvernement, c'est bien le problème. et c'est vrai que quelques années en arrière, moi, j'avais pas de profs qui étaient là-dedans. Il n'y avait pas forcément des profs qui soutenaient. Mais par exemple, moi, je me pose la question, vous avez dit, il y a des profs qui vous disent qu'ils sont fichés. C'est des profs qui dénoncent ça, ou ils disent ça pour vous informer en mode, ah, faites gaffe, il y a des fichages, ou ils sont d'accord avec ça?
Bah, il y a de tout, quoi. Bah, je sais pas, vous.
Moi, généralement. Ouais, non, moi, c'est un des professeurs qui me fait le plus souvent des réflexions, en fait. Contre, qui est contre, parce que il déteste ça et que, voilà, après, je sais qu'il y a aussi, il faut pas croire, il y a aussi des professeurs qui nous soutiennent, qui essayent aussi de nous protéger, hein, même intérieurement, de ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur du lycée, mais il y en a aussi beaucoup qui essayent de, pas de nous couler, mais qui nous font des réflexions tout le temps, et c'est un peu pesant à force. Voilà.
Il y a eu un appel sur Paris appelant les professeurs et les parents à sortir devant les lycées aussi pour protéger les lycéens et lycéennes, en tout cas être là avec les interventions policières. On l'a vu avec Bergson, hein, où on se demande quand on voit ces vidéos où est le corps enseignant, où est-ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dehors à ce moment-là à s'interposer, quoi.
Bah, après, il y a eu un truc où, par exemple, j'ai pas cité le nom non plus, mais genre, il y a des lycées où il y a eu des trucs de blocus qui ont été parlé avec l'administration, et ceux qui étaient pas pour, qui pouvaient pas leur dire oui, je suis pour, mais qui disaient je suis pas contre non plus, vous faites ce que. Enfin, vous motivez, voilà, je suis d'accord avec vous. Nous, dans notre lycée, il y a des trucs où l'administration, c'est pas du tout d'accord, il y a du forcing pour que les élèves rentrent. Vraiment, ça va être contre, je m'en fous, je vous écoute pas, voilà, quoi.
Il y a eu un lycée où le jour d'un blocus, le principal a dit aux élèves qui voulaient rentrer, si vous voulez rentrer, vous escaladez les grilles. Et il y avait des élèves qui escaladaient les grilles et les flics en bas qui tiraient les gens, qui faisaient une chaîne pour bloquer, qui... Voilà.
Des clés de bras, un peu tout, quoi, c'était pas...
Alors, quand même, pour commencer à répondre à la question que tu poses, hein, où est le corps enseignant, je sais que nous, on avait reçu dans cette émission une prof qui est pas ici, qui est à Foix, une prof qui, elle, avait accompagné des élèves qui étaient en manif, et en fait, la pression dont vous subissez, mais on va peut-être en reparler juste après, mais c'est pour raconter l'anecdote, elle aussi avait été convoquée au commissariat. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un adulte qui était du corps enseignant, qui était là un peu pour appuyer la démarche de ses élèves, ça avait... Il y a aussi des réactions contre ça qui sont inhabituelles. On n'avait jamais vu des profs convoqués pour incitation à l'émeute. Mais pour en revenir un petit peu, moi j'avais envie que vous nous racontiez ce que vous nous disiez pendant le montage, à savoir votre rapport avec comment ça se passe les blocages à 8h, c'est qui vos interlocuteurs. À une époque, c'était plutôt l'administration. Vous nous racontiez que vous aviez parfois la police qui était là très tôt matin. Bah, la police se lève.
On a eu une intervention, il y avait un blocus qui a été truc comme ça. Bon, on avait commencé à rassembler des poubelles pour bloquer les entrées. Et puis la police qui passait comme ça en ronde, je sais pas pourquoi, la police municipale qui est arrivée, qui a commencé à nous engueuler, bon, à nous fouiller, prendre nos noms, etc. et qui a commencé à nous engueuler, nous menacer de coups de gazeuse dès le matin. Moi, je ne me rappelle plus des propos exacts, mais voilà, quoi, qui s'emballe, qui ne savait pas du tout d'où ça venait, qui était là. On a eu aussi une intervention d'un mec, bon, ça c'était peut-être un mec qui faisait son boulot, on a déplacé ses plots, voilà. On s'est excusé et tout, mais bon, il y a eu vraiment la police qui a fait pression, qui n'était pas au courant de ce qui se passait, qui n'a pas posé de questions, mais qui est directement dégagé, remettez les poules à votre place, ou voilà quoi.
Et au début de ce mouvement, moi je me souviens qu'il y a un slogan du genre CRS, caresse, des trucs un peu, je vais dire bisounours, je mets des guillemets, mais des trucs un peu gentils. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez chantées, si c'est des banderoles que vous avez portées. En tout cas, c'est des choses qu'on entendait dans les manifs. Est-ce que vous, au début, vous personnellement, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois après, est-ce que quand vous prenez un peu du recul là-dessus, vous en êtes où avec ça, cette confrontation
En fait, ouais, justement, au début, c'était plus des slogans. Du style CRS avec nous ou CRS plus de caresses, etc.
Toujours, hein.
De moins en moins, justement,
moins,
en fait. Parce que maintenant, c'est plus. On est plus en fait en colère contre les CRS. Enfin, c'est devenu. Enfin, ces slogans-là se sont transformés en tout le monde déteste la police, par exemple. Mm. Parce que on a. Même d'ailleurs, il y a eu un témoignage d'un CRS, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui disait exactement ça, qui disait que les CRS avec nous s'étaient transformés en tout le monde déteste la police. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'entends plus ces slogans, c'était au début, mais avec le. Enfin, maintenant, on les entend, c'est vrai qu'on les entend plus.
Toujours pour revenir un peu sur ce que vous nous disiez pendant ce montage, vous pouvez citer quelques exemples, vous nous parlez des choses, des utilisations de la force illégale, des trucs qui vous ont choqué, vous pouvez donner quelques exemples des choses qui vous font basculer de CRS avec nous à tout le monde déteste la police, c'est quoi les trucs qui vous ont un peu marqué, des exemples dans le désordre hein, c'est,
Moi je sais que dans le métro il y avait eu des baqueux qui étaient descendus et qui avaient tapé, donc moi j'étais dans ce métro, dans la rame où ils sont rentrés. Et ils sont descendus dans le métro avec les matraques et ils ont tapé pour interpeller 2 personnes. Et je pense que là, quand j'ai vu ça et que je me suis pris des coups, j'ai eu un des déclics, ouais.
Et après, ouais, c'est vrai qu'on a carrément du mal. Enfin, moi, je vois très rarement un flic, en fait, arrêter un casseur ou même frapper un casseur. Enfin, je veux dire, moi, je me suis plus fait frapper par les flics que certains casseurs que je vois, parce qu'on les revoit hein, tout le temps.
On sait lesquels c'est.
Hein, on a l'habitude maintenant, toutes les semaines, il y a manif. On les voit. Ils ont...
C'est quoi pour vous un casseur, du coup
C'est quelqu'un qui est... Enfin, pas forcément cagoulé, parce que tous les casseurs... Enfin, il y a des gens qui sont pas des casseurs, mais qui sont cagoulés. Mais je veux dire, on a vu dans certaines manifs où ils sortaient du cortège, qui cassaient des vitrines et après se reprotégeaient dans le cortège, etc. Ou des provocations envers la police, justement, alors qu'ils sont en plein cortège.
Ouais, des pétards.
Des
fumigènes.
Ouais, des fumigènes, tout ça, qui sont jetés par les manifestants sur les flics.
Des forcing de barrage.
Ouais, voilà, alors que les lycéens sont juste derrière eux, quoi. Genre, ou quelque chose comme ça. Enfin...
Après, c'est sûr, dans les manifestations, il n'y a plus trop de... Que ce soit du côté des flics ou des manifestants, il n'y a plus trop de différenciation quoi quand
ben oui parce que quand ça, c'est quand la par police exemple, charge quand Pierre se fait arrêter dans un troupeau de 6 autres personnes le lendemain la dépêche mettra l'arrestation de 7 casseurs voilà, donc
c'est ça s'il y a plus de différenciation
mais parce que je sais pas où vous en êtes mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui portent une pratique en manifestation qui est d'abord de pas vouloir se faire arrêter, c'est pour ça que les cagoules de vouloir se défendre, c'est-à-dire qu'on s'est habitué aujourd'hui, c'est quelque chose dont on en parlait un peu hors antenne de comment la police a évolué. Hein. Moi, je me rappelle d'un temps où la BAC n'existait pas, et surtout un temps où, par exemple, on n'avait pas des flics sur les bords des cortèges ouais. qui étaient prêts à nous tirer dessus avec des flashballs. Et j'ai l'impression que le fait, on parle de casseurs, des gens qui essayent de virer les flics des cortèges. Et qui se protègent avec des banderoles renforcées, avec des pratiques. Et je me demande si, ou en tout cas, c'est pas que je me demande, pour moi, c'est ce que je porte, cette séparation entre casseurs et manifestantes, elle n'est pas finalement aussi une des ressources du maintien de l'ordre. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on arrête des gens parce qu'on dit que c'est des casseurs, alors que finalement, tout le monde, il n'y a que des manifestants, il n'y a que des gens qui sont contre la loi de travail.
Mais il y en a qui jouent avec ça, quoi, que ça va, que ta peau ne pas être cagoulé, avoir une capuche, un masque et des trucs, et faire chier les flics, casser des trucs, lancer des poubelles, lancer des bouteilles, gueuler, et puis voilà, c'est sûr, il y a plus de trucs.
Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais participé à ce genre de choses. Après, c'est leur choix d'agir comme ça. Bon, on va pas les empêcher. Enfin, je vais pas. Voilà quoi. Ils font ce qui semble bon quoi, mais moi je sais que je me suis genre on a eu des en manifestation avec avec les copains, on a eu des tirs tendus de lacrymogènes. On a eu des grenades de désencerclement jetées directement sur nous, alors qu'il n'y avait même pas d'attroupement. Des coups de matraque alors qu'on était en train de se disperser. Que des choses comme ça, alors qu'on a pu voir où il y a eu, il n'y a pas longtemps, une manifestation où il y a eu un gros groupe de casseurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Toulouse d'ailleurs. Et de suite, les flics ont été beaucoup moins présents. Ça a pas pété, ce qui est, et j'avais l'impression qu'ils avaient compris, parce que vu qu'ils n'ont pas intervenu, ils avaient beaucoup moins de présence, ils avaient eu plutôt du sang froid, etc., alors qu'il y avait beaucoup de provocations en face. On pensait justement qu'ils avaient compris, que du coup cette fois là ça avait pas pété, et la manif d'après, là où il y avait pas ce gros groupe de casseurs justement, ben, ils ont chargé encore. Donc j'ai du mal à comprendre un peu la logique des ordres qui sont donnés au CRS.
Après, il y a de la peur des deux côtés aussi, puisqu'on parle du débordement des flics, mais quand on voit y a les trucs des manifestants, des fois, qui sont vraiment chauds. Il y a eu un truc où flic qui s'écarte son escouade, qui s'est fait enlever son casque et taper avec dessus par des gens, et c'est choquant des deux côtés. Quoi. Donc,
La voiture brûlée aussi.
Oui, il y a le truc, choquant, voilà, ouais. Ça, c'est une voiture qui a cramé, une voiture de flic. Donc il peut y avoir de la peur des deux côtés, c'est sûr, quand on voit le truc, il y a un cortège d'une centaine de personnes cagoulées en noir qui avancent et qui jettent des trucs. C'est sûr que ça. Même. On a beau avoir un bouclier, une matraque et.
C'est
une gazeuse, ça peut faire
un long débat, parce que moi je vous dis au début de ce mouvement, j'avais aucune haine en quelque sorte contre les flics. Maintenant ça a changé, enfin je veux dire par exemple, tu prends l'exemple du flic qui s'est fait taper dessus parce qu'il s'est écarté de son escouade, mais il était tout seul, il avance vers un groupe de manifestants
matraque en l'air.
Il était là pour clairement. Les frapper, donc il d'ailleurs il matraque des gens tout seul au milieu de manifestants, il est là pour les frapper, il est là pour leur faire mal, il est en infériorité, ils sont je sais pas combien en face, etc. Moi je cautionne pas ce genre de choses, hein, mais c'est sa faute, enfin je veux dire ils s'attendaient à quoi? Je comprends pas en fait.
Ils font leur métier.
Enfin, non.
Oui, non, mais ils font leur métier, dépend, mais pas comme dépend. Il faut. Ça
dépend.
C'est qu'eux, ils ont eu une formation et on a l'impression qu'ils agissent à l'improviste. Ouais,
à l'aveugle en fait. Genre,
ouais, clairement.
Après, moi j'ai juste l'impression que leur métier c'est de maintenir l'ordre. Hein, et l'ordre c'est la loi travail.
Alors ils font pas leur métier.
ouais, mais l'ordre c'est la loi travail, c'est-à-dire qu'à un moment il faut qu'elle passe contre la vie de tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment il semble que là s'il cogne des gens, c'est pour qu'on rentre chez nous et qu'on arrête de manifester contre la loi de travail. C'est-à-dire plus. c'est pour maintenir quelque
moi,
chose.
Je pense que ça fait exactement l'inverse. En fait.
Ouais, c'est sûr, on ne peut plus parler de démocratie quand on fait passer un truc en force, encore à la limite d'accord, mais qu'ensuite on frappe les gens pour qu'ils rentrent chez eux, pour qu'ils arrêtent de dire non, on n'est pas d'accord. Bah, y a un moment,
Moi, depuis que Pierre, par exemple, s'est fait arrêter, j'ai encore plus la haine et j'ai encore moins envie de rentrer chez moi. En fait, hein. Je pense que ça fait vraiment tout le contraire de vouloir nous disperser, nous faire rester chez nous. Donc voilà.
Je pense qu'il y a une autre phase. Il faut que vous allez voir des procès en comparution immédiate. Après les manifestations, je pense qu'il y a une autre couche. Et moi, c'est ça qui me fait penser que c'est pas des dérives, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est fait pour quoi. C'est-à-dire quand on voit des personnes arrêtées pour un jet de bidon. Ouais. Sur un policier qui ne le prend pas sur la tête,
ouais, et que 6 mois ferme pour un
6 mois ferme qui tombe à côté. Je veux dire
une canette, pas le pack, hein.
Le juge ou la juge, le procureur ou la procureure à ce moment-là sont pas fatigués, sont pas en heure sup, sont pas.
C'est exactement comme Pierre quand il s'est fait arrêter. On avait des amis qui ont donc vu l'arrestation et qui sont directement allés voir les policiers qui étaient en train de l'arrêter pour savoir de quoi il était accusé. Et directement, sur le moment, ils nous ont dit qu'il avait lancé sur les flics un sérum physiologique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est genre c'est du plastique.
Très mou en plus.
Hein, oui, très mou. Ça fait 5 cm de haut, 0,5 cm de large. Et donc,
0,5
voilà. Millilitres. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi.
Mais on en vient au fait que pour eux, en fait, c'est pas tellement casseur, pas casseur, c'est que le fait d'avoir des sérums physiologiques, je sais pas si vous avez subi ça, mais à la sortie des métros, oui. Ils fouillent les sacs, oui. Vous avez des lunettes pour vous protéger des lacrymos, vous êtes de l'autre côté. Vous avez des sérums physiologiques, ils les confisquent. Et donc, en fait, pour eux, la distinction, elle est pas la même. C'est effectivement, il faut qu'on rentre chez nous. On parle du fait, est-ce qu'ils font bien leur boulot ou pas leur boulot. Et, ils ont des armes soi-disant non létales, qui sont des armes qui, à chaque manif, mutilent, blessent des définitivement. Évidemment, il y a des blessés chez la police, mais nous, on fait la blague chaque semaine dans notre émission. Ils sont où les blessés de la police, quoi? On a eu un cas, on a eu un policier blessé dans une ville qui a pris un pavé. Il y a des mois et des mois de prison, alors qu'en face, on a quelques cas. Regardez les précautions que prennent les médias dominants dès qu'il s'agit d'éventuelles bavures. D'ailleurs, le mec, on voit une grenade, le mec qui tombe après à Paris il y a 10 jours. On va nous mettre des guillemets pendant des mois. Le mec qui perd un œil, on dit que c'est en raison d'un projectile. Et 2 ans plus tard, au bout d'un procès, on saura que c'est un flashball. Alors, quand on est en manif, on le sait. 10 minutes après, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et on a un côté de poids de mesure. Ils font leur boulot, ils ont des armes pour nous faire mal. C'est pas...
D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça. La dernière fois, justement, je sortais du métro avec du sérum physiologique, etc. Parce que, en tant que. Enfin, on organise un peu, on est quelques-uns à organiser un peu la coordination lycéenne en manifestation, etc. Donc, on se doit de, si jamais ça pète, justement, d'avoir du sérum physiologique. On a même prévu une trousse de secours, etc. Et donc, le BACE m'a contrôlé avec ça. Et directement, il a été super agressif avec moi, verbalement. Et je lui ai demandé pourquoi il était agressif comme ça alors que je m'étais laissé fouiller, il m'avait pris mes sérums physiologiques, etc. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il m'a répondu mot pour mot « T'as cru que les préjugés sur nous c'était de la merde ?» Je comprends pas, le mec assume que c'est en quelque sorte un connard, quoi.
Ouais.
Et il y avait même une dame à côté qui était ahurie, quoi, qui a vu ça et qui a dit... Ouf, c'est, enfin, voilà quoi, je comprends vraiment pas. Et après, ils vont faire des manifestations contre la haine anti-manifestants, enfin...
Contre la haine anti-flic.
Ce qu'on peut noter aussi, c'est que, bah, pareil, du côté des manifestants, on dit qu'on fait plus trop la différenciation entre casseurs ou pas casseurs, donc on va arrêter un groupe de 6, les 6 sont des casseurs, mais c'est pareil du côté de la police, c'est-à-dire que, bah, la dernière fois, pareil, on avait parlé avec un policier, bon, parce qu'il y avait eu... une cuvette, voilà, donc on peut pas sortir, bon, ça a stagné, on a commencé à parler avec un policier, un BACE, et qui commence à nous dire que, voilà, quoi, qu'il avait l'air vraiment déprimé de faire son boulot, qui était en mode, ouais, bon, tout son proche vous parle, je suis là pour frapper, donc ça sert à rien de parler, vous écartez, bon, voilà, on sentait vraiment que ça le faisait chier de faire ça, quoi, et on peut voir aussi, dans certaines manifs, parce qu'il y a la manif avec, où il y a vraiment eu le Black Bloc avec beaucoup de casseurs, les flics sont pas intervenus, il y a eu vraiment, c'était beaucoup moins énervé, beaucoup moins violent, beaucoup plus lâché, vraiment, la laisse aux manifestants, et puis ça s'est dispersé, et puis il n'y a rien eu, quoi. Donc on peut faire pareil, c'est la différenciation n'est pas faite non plus entre les flics qui font leur boulot, vraiment leur boulot, et d'autres qui vont s'acharner à vraiment vouloir faire mal, quoi.
Il y a une majorité de flics.
Oui, c'est pareil. Mais il y a aussi une majorité de manifestants qui aiment foutre la merde et qui en profitent un peu.
Super, merci. On va vous relâcher avant que vous preniez encore des heures de call, des conversations et tout ça, parce que 14h, je crois que vous rempilez.
Merci.
Merci, super d'être venu. Vous connaissez l'adresse maintenant, le numéro de téléphone aussi, donc si jamais voilà, vous voulez repasser, qu'il y a des choses voilà, que vous avez de nouveau envie de raconter à la radio, vous n'hésitez absolument pas. Merci beaucoup à tous les 4
d'être venus. Merci à vous.
Vraiment super.
À bientôt.
Au revoir. Un petit morceau.
Quotidien, existe une dimension régie par les lois les plus folles. Une dimension où les faits et les choses prennent un tour singulier. On vous fait entrer sur ce terrain glissant entre ombre et lumière, où s'ouvrent en grand les portes de l'arbitraire, de la férocité, de la vengeance d'État, n'importe où, au coin d'une rue, à la sortie d'un bar, au saut du lit ou dans un rassemblement. Vous entrez alors dans une dimension où se côtoient humiliation et condescendance, où les mots ne sont plus les mêmes, où la force sert à la loi et la loi sert à la force.
10er cette quatrième dimension n'est pas chose aisée, souvent elle se déploie dans des recoins du monde, que l'information, celle des JT, des journaux et des radios recouvre, tout en ne laissant aucun accès à l'expérience directe des personnes prises dans les situations. Souvenez-vous, l'homme à la photo, Rennery, 14 novembre 2015, premier jour de l'état d'urgence, une photo d'un homme bien charpenté et bien barbu, menotté dans le dos, qui fera la tour de la planète pour illustrer la mouvance islamique. Il faudra attendre plus d'un mois pour connaître l'histoire de ce père de famille tranquille. Les policiers qui déboulent, criant 129, 129, 129 pour le nombre de morts et des attentats, les coups, les violences, le saccage, les enfants terrorisés. Même mensonge qui se répète à chaque fois, à chaque crime. Malik Oussekine, Robert Pandreau déclare, il est alors ministre délégué à la sécurité, « Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con la nuit. » Wissam El Yamni, Clermont-Ferrand, on évoque la drogue et l'arrêt cardiaque. À Liziri, à Argenteuil, on évoque l'alcool. Rémi Fraisse, on parle d'explosifs dans son sac. Etc, etc, etc. Aujourd'hui, que dans ce mouvement social, les violences policières sont un fait quotidien, accrédité par des images si nombreuses qu'il est difficile de les contester, le discours se fait plus agressif. C'est le combat des chiffres, des blessés qui souffrent le plus. Dans ce combat du comptage, la police a un avantage certain, elle a raison. Enfin, elle n'est pas contredite, ce qui est presque pareil en ces temps médiatiques. Ainsi vont les titres de journaux. 28 Raville, entre 170 000 et 500 000 manifestants, 24 policiers blessés. 12 mai, loi travail, 82 interpellations, 18 policiers blessés. 27 mai, journée de mobilisation, 15 policiers blessés. En face, évidemment, pas de décompte des manifestantes, qui ne vont pas déclarer qui une cheville foulée dans une charge, qui des contusions, qui des brûlures de grenades, qui n'a pas une main blessée quand on ne sait pas un œil en moins. Arrêt sur image. Le 26 mai à Paris, un homme tombe alors qu'une grenade de désencerclement éclate. Il est aujourd'hui dans le coma. On parlera d'abord de sédation profonde. Et si tous les témoins présents évoquent la grenade, les autorités, elles, nient catégoriquement. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, disait Goebbels. Quelques jours plus tard, blocage à Toulouse, Pont-Jumeau, les flics chargent, un pétard explose. Moins d'une heure après, la dépêche titre « 5 policiers blessés ». Les policiers vont évoquer une bombe agricole au procès du lendemain. La guerre de la réalité fait rage. Un homme se retrouve pris dans l'étau, soupçonné d'avoir rien de moins que jeté une bombe agricole. Waouh ! Une bombe agricole. Truc de ouf. Bon, personne ne sait exactement ce qu'est une bombe agricole. Moi, personnellement, j'ai cherché sur Internet, il n'y a pas de définition précise d'une bombe agricole. On se souvient du coup du 31 mars, les Black Blocs, le squat des Black Blocs, des projectiles artisanaux lors de l'expulsion. On avait découvert un arsenal. Tout cela s'était complètement dégonflé. Menté, menté, menté. Revenons donc à notre matinée du 2 juin, ou plutôt au 3 juin, lors de la comparution immédiate d'un homme que l'on accuse d'avoir blessé non pas un, ni deux, ni même cinq, mais bien 10 policiers. Avec un engin dont on ne sait pas trop ce que c'est, une bombe agricole. C'est certainement très dangereux, une bombe agricole, puisqu'il y a 10 victimes. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, disait Goebbels. Pour le 26 mai, il y a ce qui est convenu d'appeler une polémique autour d'une personne dans le coma, à côté de qui explose une grenade, mais celle-ci ne peut le blesser. C'est les policiers qui ont agi. On est déjà à la 5e vidéo montrant la personne tombée, mais bon, on n'est pas sûr, c'est parce qu'une grenade explose à côté de vous que ça fait mal. En fait, les grenades de désencerclement, c'est un peu des lanceurs de caramel mou. C'est pas comme une bombe agricole. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Cette quatrième dimension est celle que la police, les autorités et leurs porte-voix journalistiques fabriquent pour recouvrir ce que nous vivons, nous, ce que nous savons parfaitement, les gaz et les coups, les flashballs et les grenades. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, disait Goebbels, qui en connaissait un rayon sur la question. cette quatrième dimension du mensonge d'État et de la complicité médiatique, c'est l'impossibilité de faire de cette expérience concrète une expérience commune et d'en tirer les conséquences tout aussi communes et concrètes.
Dans le rapport parlementaire intitulé « Développer des réponses plus graduelles pour mieux conjuguer ordre et liberté », nous trouvons la phrase suivante. Journalistes et forces de l'ordre ont tout à la fois un intérêt commun et un devoir de travailler ensemble, et à tout le moins de ne pas nuire à l'exercice du métier de l'autre. En effet, la transparence sur leur professionnalisme et sur l'attitude violente et ou délictueuse de certains manifestants ne peut que servir les missions des forces mobiles et, si certains ont déploré devant la commission la diffusion de montages grossiers caricaturant l'action des forces de l'ordre à Sivens, elles étaient le fait des organes de communication officiels et monopolistiques de la ZAD. De leur côté, les journalistes ont besoin de la sécurité offerte par l'action des forces de l'ordre et que cette action ne les empêche pas de travailler en toute indépendance.
C'est l'état d'urgence.
Hop, répression, répression. Alors on a parlé des lycéens qui subissent la répression de leur administration aussi. Et ben c'est pareil à la Poste. À la Poste, il y a de la répression. On va parler de la lutte à la Poste, mais quand même en petite introduction pour vous le dire. Jeudi, il y a un blocage au Mirail dès 6h du matin pour soutenir une personne qui passe en conseil de discipline. Licencié à la place de son fils, titrait la Dépêche, pour faire le raccourci habituel dont ils nous servent à chaque fois et à 14h30 à la Poste des Minimes, barrière de Paris, métro barrière de Paris, il y a un rassemblement en soutien à cette personne donc qui est condamnée arbitrairement, licenciée arbitrairement. Toutes les explications en direct sur yata.info. En attendant, eh bien les frimas du petit matin sur un blocage. Retour sur la loi travail.
Aux travailleuses, aux travailleurs de la Poste. Cela fait 2 mois que nous luttons contre la loi travail. Malgré les stratégies d'étouffement mises en place par le gouvernement, le mouvement ne faiblit pas et la colère monte.
Go ! Non, on va pouvoir le mettre quand même. C'est important. Spécifiquement pour les travailleurs de la Poste.
Exactement, on a affaire extrêmement. Bonjour monsieur, vous êtes contre la loi travail ? On vous invite à venir nous rencontrer en assemblée vite.
D'accord. Il est 6h du matin, l'heure où blanchit la campagne industrielle du nord de Toulouse. Ça se passe dans la zone Eurocentre, le cœur logistique de la métropole toulousaine. C'est ici que se situe la PIC, pour plateforme industrielle courrier, le centre de tri régional qui arrose 8 départements du sud-ouest.
Bonjour, on est sur le travail, à destination des travailleurs de la
Dans le cadre de la lutte contre la loi travail, l'Assemblée de lutte 31 a décidé de venir diffuser des tracts aux travailleurs et travailleuses de la Poste pour les engager à se mettre en grève, à bloquer leur entreprise et à venir participer à l'Assemblée de lutte.
Quand on a lancé l'Assemblée de lutte, c'est qu'on partait du constat que Nuit Debout, ça ne nous allait pas. Dans le rapport à la lutte contre la loi travail, mais même dans la conception de la société, etc., ça ne nous allait pas trop. C'était souvent une espèce de prise de parole un peu désarticulée, tu vois, qui essayait pas de se répondre. Enfin, il n'y avait pas d'intelligence collective. Et du coup, nous, il nous manquait un espace d'auto-organisation avec une intelligence collective. Donc on a développé cette assemblée de lutte un peu à, vraiment, comment dire, pas en opposition, tu vois, mais vraiment loin de Nuit Debout, quoi. Et loin de Nuit Debout, mais sur la place du Capitole, les premières assemblées.
Il y a des syndicalistes un peu dans l'assemblée de lutte 31 ?
Non. Non, il y en a eu quelques-uns, quelques-unes. Mais elles ne sont pas revenues depuis. Et c'est surtout des. Il y a des syndiqués, mais c'est surtout des gens qui ne sont pas organisés dans le cadre d'un syndicat. C'est plutôt des précaires, tu vois, qui se retrouvent autour de l'Assemblée. Quoi. Et ensuite, là, ce qu'on essaye de faire désormais, c'est pour avoir une plus grande efficacité dans le blocage. On a demandé à des représentants syndicaux, à des gens de Nuit Debout, de la CIP, etc., de venir ce soir à 18h30 à la chapelle pour discuter de ça et de voir comment on peut se coordonner, quoi, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, au moins se coordonner pour les grosses journées d'action.
pour le travail à destination des travailleurs de la presse.
Et du coup, on a décidé, en assemblée de lutte, de faire que des tracts spécifiques sur des secteurs pour que les gens, tu vois, genre, ça leur parle beaucoup plus, tu vois, de, ouais, voilà, de parler précisément de ce qui va pas dans, au niveau du taf, le rapport à la hiérarchie, le rapport aux collègues qui se dégrade au fur et à mesure aussi, avec la concurrence, le rapport aux intérimaires qu'on embauche quand, quand une grève est déclarée, enfin, tu vois, genre, tout ce truc-là, quoi, un peu de discuter de ça. De...
À la Poste, la loi travail n'est que la suite logique des techniques de management développées par les patrons depuis des dizaines d'années, en parallèle du processus de privatisation pour diviser, donc affaiblir les collègues, multiplication des statuts de plus en plus précaires, recours aux travailleurs intérimaires, pour casser les grèves par exemple, pression sur les équipes de nuit, augmentation de la charge de travail, allongement des tournées, prise en charge des colis. La loi travail va venir renforcer et faire perdurer ces techniques. Notre objectif est de couper court à cette dynamique mortifère.
Bonjour, contre le travail pour les travailleurs de la Poste. Bonne journée. Bonne journée.
Ouais, les intérimaires, on fait avec chômeurs précaires, quoi. En gros, tu sais, il y a plus vraiment de... Il y a un flou continu entre ta position de chômeur, ta position de travailleur, des petits boulots. On a fait des tracts sur les petits boulots du secteur tertiaire, précisément, tu vois, avec tous les étudiants qui sont là, qui travaillent à côté, enfin, tu vois, qui sont maintenant beaucoup plus travailleurs qu'étudiants, d'ailleurs. Il y a des gens de la Poste qui sont à l'Assemblée de lutte, en fait, mais qui travaillent pas au centre de tri, qui travaillent plutôt sur les centres de distribution, donc en ville, etc. Et c'est avec eux qu'on a écrit le tract. On voit qu'est-ce qui clochait au niveau du centre de tri, au niveau du centre de distribution, l'ajout de colis, la charge de travail de plus en plus lourde, tu vois.
Durant le mouvement, lors d'assemblées de lutte ou de blocages économiques, nous avons rencontré des camarades de la Poste. Et le point commun des différents témoignages, c'était l'isolement. Des copines nous racontaient comment les managers leur mettaient la pression quand elles se mettaient en grève, tandis qu'un copain nous a appris son non-renouvellement de CDD, son licenciement, quoi, dans un bureau de poste de la ville, à la suite de sa participation à une journée de grève contre la loi travail. Grâce à l'organisation collective de la lutte et le soutien des camarades d'autres secteurs, ce genre d'attaques n'existeront plus. Les travailleurs et travailleuses de la Poste peuvent avoir un poids conséquent sur l'économie toulousaine, bloquer le centre de tri de Castelnau, qui gère 8 départements, ou bien un des bureaux au centre de distribution de la ville de Toulouse. Ça a un impact sur la boîte et sur tout le tissu économique local.
Mais là, il y a un gros mouvement là, au niveau de la Poste qui essaie de se lancer quand même autour des centres de tri. Et... Ouais. Donc voilà, donc là c'est un peu combien de temps ça va tenir. Tu vois, demain matin, ils vont organiser le blocage de la zone ici. Il faudrait voir combien ils sont, quoi. Combien on est.
Alors, on est revenu le lendemain matin, à la même heure. Les âgés de salariés du centre de tri avaient voté la grève. Ils avaient aussi appelé l'intersyndicale à venir bloquer l'accès aux camions de livraison. Une quarantaine de personnes s'étaient motivées pour venir soutenir leurs camarades à la chaleur des pneus qui brûlent et du café en thermos.
Alors ici, nous sommes en blocage devant la plateforme industrielle de courrier, qui est une plateforme interrégionale de la Poste. C'est là où transite tout le courrier de la Poste pour la région et même en interrégion.
Pic, ça veut dire plateforme industrielle courrier, pour ceux qui ne savent pas. La Pic de l'Esquin, Pic du Nord, ont tenu 70 emplois avec un jour de grève. Nous avons la Pic de Poitiers. La PIC de Poitiers qui a obtenu sur son cahier revendicatif des primes que nous demandons nous depuis au moins 6 mois. Ils l'ont obtenu en 2 jours. Ils étaient quand même 50% et après 80% en grève. Donc ça a duré 2 jours. Nous avons la PIC de Marseille qui a un préavis limité depuis hier. Nous avons Nantes, Brest, Sestas en grève. Voilà, bon, ben nous on démarre. Voilà, on a un cahier revendicatif avec des revendications qui sont légitimes dans la mesure où, soi-disant, nous avons une plateforme du 21e siècle avec des machines qui ont un progrès technique énorme. Par contre, après, nous, dedans, on travaille comme des abrutis. On a encore des chantiers dignes de Germinal. Après, nous avons énormément de troubles musculo-squelettiques parce que les machines, elles vont à une vitesse que nous, on n'arrive pas à suivre. On doit suivre les cadences et forcément, le corps humain, lui, il a ses limites. Et il y a beaucoup d'inaptes. Les inaptes, avec la loi El Khomri aujourd'hui, seront licenciés.
c'est une action unitaire, intersyndicale, avec les organisations de jeunesse aussi, qui a pour but de bloquer l'accès des camions à la plateforme en lien avec les salariés qui sont en grève à l'intérieur de la boîte.
On est les premiers camions à poser, on prend la navette de l'aéroport, on amène le courrier, les premières lettres qui sont triées le matin. Nous, on est une société qui travaille pour la Poste. D'ailleurs, tout ce que vous allez voir plusieurs transporteurs, c'est des sociétés différentes. Ça fait un moment que c'est plus la Poste qui assure le transport de son courrier.
Vous étiez au courant un peu qu'il y avait un blocage ce matin
ou... Oui, on était averti hier les tracts à la sortie du centre de tri. Moi, j'ai averti mon responsable. On sait qu'on est bloqué, voilà. Mais disons qu'on comprend, on comprend la colère des gens, quoi. On adhère, on comprend la colère.
Tout le monde est convaincu que ce projet de loi est nocif. Si jamais il passait, il serait catastrophique pour les salariés. Et tout le monde nous apporte son soutien.
Bah en fait, ce que je fais, c'est du chauffeur-livreur. Voilà. Travailleur de nuit. Mais là, il y a quelques personnes de syndicats qui ont réalisé le rassemblement contre la loi El Khomri, je pense. Et tout ce qui suit les nouvelles directives sur l'emploi, quoi.
Ouais.
Tous les changements à venir.
Okay.
Voilà. Okay. C'est juste une petite une prise de conscience de ce qui se passe, quoi.
Et vous en pensez quoi de tout ça, du coup ?
Mais il faut bouger, quoi. On peut pas rester bras croisés et voir ce qui se passe sans rien faire. Donc, je pense que c'est une bonne chose, oui. Ouais. Il faut écouter tout le monde. Okay. La chance, c'est tout le monde. Ouais, j'ai un boulot, oui. Ça se passe bien, mais c'est des extérieurs avec les gens qu'on travaille où on voit qu'il y a des soucis. Mais bon, sur une vue globale, il y a vraiment des problèmes, c'est, ouais, sûr. Emploi, loi, tout est restreint, quoi. Ça touche toutes les branches, tous les emplois. Et... Voilà, quoi. Tout le monde devrait être concerné, quoi, je pense.
C'est l'interpro, hein. De manière interprofessionnelle, on est venu bloquer. Les salariés de la boîte n'ont pas la possibilité de bloquer eux-mêmes devant la boîte parce qu'il y a une politique extrêmement agressive de la Poste en faisant appel à des huissiers, en constatant et en tapant au portefeuille de manière systématique et en prenant des sanctions contre les salariés qui se livreraient à des blocages. Le gouvernement est extrêmement fébrile. Ce qui montre, ce ne sont pas des signes de durcissement, ce sont des signes de faiblesse. Tout concourt à nous le prouver. De nombreux secteurs entrent dans la bataille et tous les salariés qui partent en dénonçant le projet de loi El Khomri et qui mettent en avant les revendications dans leur boîte ont toutes les chances de gagner.
Ouais, moi je veux plus travailler dans le système marchand, c'est fini, quoi. Ça fait 4 ans que j'ai quitté le CNRS, je claque la porte. Et... Moi j'ai tout fait, quoi. J'étais délégué du personnel. Délégué syndical, je suis le CHSCT, délégué syndical central, j'ai tout fait, quoi. Deux plans sociaux, tout. Ouais, c'est bon, quoi. Faut arrêter, quoi. On n'est pas des esclaves, quoi.
CNRS, du coup, vous avez fait ça?
Ouais, j'ai fini au CNRS, mais j'ai fait Sanofi, Merial, j'étais à la recherche pharmaceutique. Alors, comme maintenant, ils ferment les équipes de recherche, j'ai fait toutes les boîtes privées de Toulouse, les grands labos, là, depuis l'âge de 26 ans. Et j'ai fini au CNRS, parce qu'il n'y avait plus que là, et même là, c'est des connards au CNRS. Donc, zappé, quoi, je ne le fais plus, quoi. La pression et tout, je dis, mais non, mais on vit qu'une fois, hein. Ah ouais, moi, quand je vois l'évolution des lois et tout, ça ne sert plus à rien de bosser. Non, il ne faut plus. Moi, je dis aux jeunes, arrêtez les systèmes marchands, arrêtez ce qu'on est, quoi. C'est pas devenir là-dedans. À part déprimé, râler tous les soirs chez toi parce que t'as gueulé avec ta femme parce que t'es à cran. Non, c'est fini tout ça. Moi, j'aimerais, quoi, que les jeunes disent, on ne veut plus travailler, tu vois. On ne veut plus travailler, c'est top, on arrête. Hein.
Ah, mais du coup, vous travaillez quand même.
Non, je fais des abeilles. Hein. L'an dernier, je fais une tonne de sainte de miel. L'année d'avant, 500 kilos.
D'accord.
Et après, je fais des petits boulots. Je vais couper des arbres chez les gens. Voilà, je fais conneries. Moi, je ne me torture pas puisque je fais ce que je veux. Les ruches, si je ne peux pas y monter aujourd'hui, je vais monter demain, c'est pas grave. L'arbre que j'ai trouvé à couper, si je vais pas cette semaine, je vais la semaine prochaine. Donc, c'est pas du travail pour moi. C'est une activité qui me rapporte un peu de sous parce qu'il faut bien croûter, mais voilà. Depuis que je travaille plus, je veux plus heureux désormais. Voilà.
Vous parliez de l'euro là tout à l'heure, il y a des trucs prévus un peu.
Alors, les supporters de foot sont d'abord et avant tout des salariés. On a un match Espagne-Suède et Italie-République tchèque de mémoire. L'Espagne et l'Italie sont deux pays dans lesquels les politiques d'austérité européennes se sont déjà appliquées, donc l'équivalent de notre projet de loi El Khomri. Et on va discuter avec eux de ce qu'ils pensent de ces politiques-là, des luttes qui sont menées dans ces pays contre ces mesures d'austérité. Et je pense que l'euro de foot est un objectif si le projet de loi n'est pas retiré d'ici là. Et à Toulouse, bon, on annonce d'ores et déjà que si le projet de loi n'est pas retiré, l'euro de football 2016 serait poubelle la vie. C'est-à-dire que nous allons organiser un blocage des ordures ménagères sur Toulouse, mais ce serait particulièrement visible et ça aurait pour but de lancer le débat avec les supporters accueillis sur les méfaits des politiques d'austérité européennes qui se déclinent au travers du projet de loi El Khomri.
Vous en pensez quoi du coup, tout ce qui se passe là ?
Très bien, mais c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez quoi. Si chacun se tape contre sa cravate, comment ira mieux quoi. Voilà, gros, c'est tout, quoi. On élimine les costards-cravates, comme on dira mieux.
Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de la. Oui, on les flingue citoyens. Votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Oui, les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi. Des mouches à merde qu'on abat. Alors arrêtons de nous laisser faire. Soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, il dure et père et mère. Pour une poignée de billets verts. Oui, les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la bande.
Voilà, vous aurez reconnu les salles Majesté. Vous êtes toujours à l'écoute du Front du Lundi. Et maintenant, on va vous passer un son qui nous vient. C'est pas si méchant. Un son qui nous vient.
Moi, je suis d'accord avec la volée de plomb, mais avec le cochon, je sais pas. Tu vois, je trouve que dans le cochon, il y a quand même de l'avenir.
Si vous ne comprenez pas ce que dit Eric, vous réécouterez le podcast.
Et puis, voilà. un pâté au plomb, t'as déjà goûté ça, toi ? C'est dégueulasse. Hein.
Non, samedi, on n'a pas le temps, Eric. Ah ouais, samedi prochain, 11 juin 2016, journée de solidarité avec les prisonniers en lutte au Mexique. Derrière ça, il y a le collectif des Trois Passants. Derrière ça, il y a le journal mexicain de prisonniers El Canero. Vous les aviez peut-être déjà entendus aux 10 jours d'autodéfense populaire de la CREA. Ils sont également passés à Terra Nova. J'ai envie de dire, session de rattrapage. Dès 16h, exposition, vente d'affiches en solidarité avec des prisonniers de la Sexta. 17h, projection, échange, lecture de lettres. 19h, concert. Voilà, ça sera à La Chapelle à partir de 16h ce samedi. Bar prix libre, bar prix fixe et empanadas végétariennes prix libre. On écoute le son qu'ils ont préparé à l'occasion pour présenter leur journée. À la semaine prochaine. Voilà, et merci, bravo. Même à Eric.
Non, vraiment, quand on est quatre, c'est quand même de la balle.